Bienvenue au congrès virtuel de ESC 2016. Je suis Marie-Annelle, votre hôte ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'ESC est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Ce soir, notre conférence s'intitule EFT et insomnie. Nous n'avons pas conscience et pourtant, nous passons un tiers de notre vie à dormir. Dormir n'est ni un luxe ni une perte de temps. Et si nous dormons en France en moyenne 6h58 en semaine et 7h50 pendant le week-end, nous sommes nombreux à nous considérer régulièrement en déficit de sommeil. Et le résultat, près de 120 millions de boîtes de tranquillisants sont vendues chaque année en France et 18% des Français prennent des médicaments pour dormir, des anxiolytiques ou des somnifères, et la moitié d'entre eux en font une consommation régulière. Le traitement de l'insomnie ne repose pas sur une pilule miracle, mais sur un ensemble de mesures. Pour bien dormir, il faut avant tout être bien dans son corps et dans sa tête. Notre conférencière est praticienne EFT et spécialisée dans les troubles du sommeil. Formée au service d'hypnologie au CHU Le Vinatier à Lyon, elle nous présente ce soir une approche théorico-pratique sur l'efficacité de l'EFT dans la prise en charge des insomnies. J'ai le plaisir d'accueillir Catherine Di Cristofano. Bonsoir Catherine.
Bonsoir Maria, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de votre présence ce soir. Effectivement Maria, durant cette conférence, je vais vous parler des troubles de l'insomnie et comment l'EFT peut être efficace dans la prise en charge de ce trouble.
D'accord, très bien. Mais avant de parler d'insomnie, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques clés par rapport au sommeil?
Oui, c'est vrai que le sommeil est très important, comme tu l'as dit. Il nous permet de récupérer de la fatigue physique et nerveuse accumulée durant la journée. Hein. Alors, avant de commencer, faisons un petit état des lieux. Chaque nuit et pendant que nous dormons, de nombreuses fonctions indispensables à la régulation de notre organisme s'activent. Hein. Le sommeil nous permet justement de réguler le système des protéines, la récupération des tissus, la croissance musculaire, nous permet aussi la reconstitution des stocks énergétiques et des cellules musculaires et nerveuses, l'élimination des toxines, la stimulation des organismes immunitaires, et elle nous permet aussi un meilleur apprentissage et une meilleure mémorisation de tout ce qu'on a appris durant la journée. En fin de compte, la qualité de nos nuits joue donc un très grand rôle sur la qualité de notre vie.
Oui, à entendre tout ça, en fait, pendant la nuit, pendant le sommeil, notre corps, la machinerie de notre corps se met en route. Il y a plein de choses qui se passent à notre insu, en fait.
Tout à fait.
Personnellement, j'y avais pas du tout pensé, tu vois.
Le sommeil est très important car il permet vraiment au corps de récupérer de tout
ce qui se passe pendant la journée.
De tout ce qui se passe, voilà, durant la journée et puis toutes les blessures qu'il a subies durant la journée.
Oui. Et du coup, quels sont les risques, quelles peuvent être les conséquences si le sommeil n'est pas suffisamment réparateur?
Alors, si le sommeil n'est pas suffisamment réparateur, il va avoir des conséquences sur notre santé et sur notre qualité de vie. Hein, comme par exemple, durant la journée, on va ressentir de la fatigue, de la somnolence, hein, qui peut perturber justement nos problèmes de concentration, être beaucoup moins performant dans nos facultés cognitives et intellectuelles. On va avoir du manque, des difficultés de se concentrer, des problèmes de mémoire. Et puis à terme, on va voir aussi des perturbations sur la santé psychique, une irritabilité, des sensations de lassitude, de l'anxiété, la perte d'enthousiasme, des problèmes de libido aussi, et puis à long terme, des risques de dépression.
Alors qu'est-ce qu'un bon sommeil?
Un bon sommeil, en fin de compte, c'est très simple. Si vous mettez moins de 30 minutes pour vous endormir, si vous ne vous réveillez pas ou très peu durant la nuit, et si vous vous sentez frais et dispos le matin, c'est que vous avez fait un bon sommeil. Et effectivement, si vous rentrez dans ces critères, vous faites partie des très bons dormeurs. Et si vous écoutez cette conférence ce soir, c'est que vous ou quelqu'un de votre entourage n'est pas dans ce cas. Et avant de commencer, On va peut-être faire un petit point sur une nuit normale en fin de compte, hein, parce qu'un sommeil, ça se découpe en plusieurs phases. Mm-hmm. Notre nuit est composée de plusieurs cycles qui durent entre 1h30 et 2h. Donc on va avoir 3 à 7 cycles qui se répètent chaque nuit et qui va se terminer soit par une phase intermédiaire qui va nous conduire à un nouveau sommeil, soit au réveil. Et on va avoir 5 phases dans un cycle. Je vais juste les énumérer comme ça, je ne vais pas m'attarder parce qu'effectivement ça prendrait beaucoup trop de temps. La première phase, on appelle le sommeil lent, très léger, qui correspond au moment de l'endormissement. Ensuite, nous descendons vers un sommeil lent, léger. La troisième phase, c'est un sommeil lent, profond. La quatrième phase, c'est un sommeil lent, très profond. Et c'est dans cette phase que nous récupérons le plus. Et je ne développerai pas ça ce soir, mais on sait que ceux qui sont sous traitement antidépresseur ne sont pas dans cette phase très profonde. Ils sont en sommeil léger ou lent profond. Mais ils n'accèdent pas à cette phase de sommeil lent très profond. Donc, ils ont justement des problèmes de récupération hein, pour ceux qui sont sous traitement antidépresseur. Et puis, la dernière phase, le sommeil paradoxal, c'est généralement la phase du sommeil. Alors, dans cette phase paradoxale, on va réparer tout ce qui est de l'ordre de la mémoire et on va enregistrer tout ce qu'on a appris durant la journée.
D'accord, donc c'est là que le cerveau profite le plus du sommeil ?
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que dans la phase lent, très profond, c'est le corps qui va profiter du sommeil.
C'est ça.
Et dans la phase paradoxale, c'est le cerveau qui va profiter du sommeil, tout à fait.
D'accord. Et on dit que c'est dans ce sommeil paradoxal, c'est la phase où on a des rêves ?
Oui, alors on dit, effectivement, c'est dans cette phase où on dit qu'on a des rêves, même si cela n'a jamais été prouvé, hein, parce que selon nos expériences, et puis même certains l'ont déjà fait aussi peut-être, quand on fait une sieste ou quand on fait une séance de sophro, de relaxation, on peut être amené à rêver.
Mm-hmm. En tout cas, c'est là qu'il y a beaucoup d'activité au niveau du cerveau.
Il y a énormément
d'activité. C'est établi.
Oui, tout à fait.
Ok. Et un autre, on dit... J'ai entendu dire que les heures avant minuit comptent double. Est-ce vrai?
Alors ça, c'est un non-dit, effectivement, Maria. C'est une idée reçue qui n'a jamais été scientifiquement prouvée.
Hein. Bon, personnellement, ça m'arrange.
Eh oui, parce que, en fin de compte, qu'est-ce qui est le plus important? Ce sont les premières heures de sommeil qui sont les plus bénéfiques pour la récupération physique. Hein. Donc, c'est comme je disais, effectivement, ce sont les sommeils profonds qui sont le plus bénéfiques. Donc, cela est valable pour les couches tôt ou comme pour toi, Maria, les oiseaux de nuit.
Alors, justement, la durée du sommeil. Là-dessus aussi, il y a beaucoup de...
on dit. Oui, ça c'est vrai. Et c'est vrai que les on-dit font beaucoup de mal parce que pour un insomniaque, alors on dit qu'il faut 8 heures de sommeil. Hein. C'est pas vrai. Le sommeil en moyenne va de 6 à 8 heures. Et du coup, ça crée vraiment une pression pour les insomniaques parce que, ou pour les petits dormeurs, hein, on verra qu'effectivement un petit dormeur, lui il a besoin de 6 heures voire de moins. Hein. Mais comme on dit qu'il faut 8 heures, donc il va dormir plus, mais c'est pas bon. Pour son organisme, c'est vraiment pas bon. Et puis, il y a donc les gros dormeurs qui ont besoin, eux, de 9 à 10 heures de sommeil. Et ils sont très fatigués si on leur enlève, si on les laisse à 8 heures, par exemple. Une personne qui a besoin de 8 heures, si on lui dit que 8 heures, si elle a besoin de 10 heures et qu'on lui dit qu'il faut dormir 8 heures, elle aura 2 heures de moins, donc elle va créer justement de la somnolence, de la fatigue. Donc non, on a besoin entre 6 et 8 heures, mais il y a des petits et des gros dormeurs. Hein, il est inutile, vraiment, j'insiste, de savoir combien d'heures dort son conjoint ou son voisin parce que nous sommes tous inégaux dans notre sommeil. Hein, on ne peut pas se caler sur le sommeil de l'autre même si on vit avec la personne depuis 20 ans. Ce n'est pas possible. Hein. Il faut juste savoir, et ça c'est très important, que moins de 4 heures de sommeil, c'est dangereux pour la santé, hein, vraiment dangereux, parce qu'effectivement le corps ne peut pas récupérer physiquement et psychiquement. Et dormir plus de 12 heures, on rentre vraiment dans ce qui est pathologique.
D'accord. Donc, le plus important, en fait, c'est de bien se connaître, de connaître son fonctionnement. Et est-ce que tu as quelques suggestions là-dessus, justement? Quelles sont les bonnes questions à se poser et comment savoir si on est vraiment en face d'un trouble de sommeil?
Oui, c'est très important de bien connaître son rythme de sommeil. Est-ce que je suis un petit dormeur? Est-ce que je suis un gros dormeur? Est-ce que je suis insomniaque? Hein, c'est des questions qu'on peut se poser. Je vous donnerai 4 questions. Hein. Réfléchissez justement à votre rythme de sommeil. Combien de temps je mets à m'endormir? En sachant que, voilà, on met entre 15 et 30 minutes pour s'endormir. Donc, combien de temps je mets pour m'endormir? Combien de temps je reste éveillée la nuit, durant la nuit? Et est-ce que je me réveille plus tôt que le réveil? Et en fonction de mon état de fatigue ou de somnolence la journée, par rapport à la durée de sommeil que j'ai eue la veille, est-ce que ça me suffit? Est-ce que c'est j'aurais besoin de plus de sommeil? Est-ce que j'aurais besoin de moins de sommeil? Voilà, c'est la qualité de la journée, hein, suite à notre nuit de sommeil, qui nous dit si on est un petit ou un gros dormeur en fonction de notre état de fatigue ou de somnolence. Et puis aussi, si j'ai tendance à être anxieuse, quelles sont les pensées qui me parasitent durant ces phases d'éveil lorsque je suis réveillée durant la nuit?
Alors, effectivement, on parle d'insomnie, c'est peut-être un petit abus de langage. Quels sont les différents troubles de sommeil qui amènent les personnes à te consulter?
Alors, l'insomnie représente le trouble le plus fréquent dans les troubles du sommeil. J'insiste et je précise que dans certains cas, une consultation médicale s'avère nécessaire. Hein, très important, on ne laisse pas traîner une insomnie chronique. L'insomnie, je dirais, elle se manifeste avant tout comme une plainte émanant d'une personne insatisfaite de son état au quotidien, de jour comme de nuit. Hein. Dans l'insomnie, nous sommes en présence d'un symptôme, hein, et non pas d'une maladie. Hein, c'est pas une maladie, l'insomnie, c'est un symptôme. Et selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, l'insomnie touchera environ un tiers de la population, hein, de manière occasionnelle, c'est pas rien quand même, et 10% de manière chronique. 10%, hein, de manière chronique. Donc, c'est énorme. Hein, on voit bien le trouble, l'importance qu'il a dans notre société, oui, et dans le mode de vie.
Tout à fait. Et justement, quelle est la définition de l'insomnie chronique ou l'inverse, occasionnelle?
Oui, en fin de compte, les symptômes sont les mêmes, pour l'une comme pour l'autre. Hein, on verra effectivement à quel moment on part dans le chronique, mais les symptômes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on parle d'insomnie, il y a trois phases. Soit lorsque l'on a une difficulté à s'endormir à l'heure du coucher, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup plus que 30 minutes pour s'endormir, hein, ce qu'on appelle l'insomnie initiale, soit lorsque l'on fait des réveils nocturnes, fréquents ou prolongés, avec une impossibilité ou une incapacité à retrouver le sommeil, ou soit enfin quand on se réveille prématurément, hein, une heure avant le réveil, le matin avec effectivement là aussi une incapacité à retrouver le sommeil. Une personne peut souffrir d'un mélange de ces symptômes ou encore peut changer avec le temps d'un symptôme à un autre. C'est-à-dire que je peux avoir un problème d'endormissement qui va ensuite se déplacer vers des réveils nocturnes ou peut-être même des réveils prématurés.
Et effectivement, je pense que je connais très peu de personnes qui n'ont jamais souffert d'une mauvaise nuit, d'avoir des soucis ou des événements qui font qu'ils ont du mal à dormir, mais ça ne s'installe pas forcément. Donc, quelle est la définition? Quand commence-t-on à parler d'insomnie chronique?
Alors, il y a plusieurs formes d'insomnie. Hein. Il y a ce qu'on appelle les insomnies occasionnelles ou insomnies aiguës. C'est-à-dire que ces insomnies, elles sont normales, dans le sens où tout le monde peut être touché d'une insomnie, hein, au moment de sa vie, même un bon dormeur.
La veille d'un examen, la veille d'un événement,
une maladie, moment de stress. Voilà, un moment de stress, un deuil, une rupture, un licenciement fait que, effectivement, ou même une situation heureuse, hein, un mariage, un départ en vacances, peut créer de l'insomnie. Hein. C'est passager. C'est-à-dire qu'une fois que le contexte est terminé, la personne reprend son rythme normal de sommeil. Donc voilà, ces insomnies, je dirais occasionnelles, c'est pas le problème en soi.
Elles ont peu de conséquences.
Elles ont peu de conséquences. Hein. Généralement, on ne s'y attarde pas, sinon on va créer un problème là où il n'y en a pas. Oui. À partir du moment où la situation anxiogène est terminée, la personne retrouve son rythme de sommeil. Là où ça devient chronique et pathologique, c'est effectivement si, suite à cet événement traumatisant passé, la personne n'arrive pas à retrouver un rythme normal de sommeil, on va rentrer dans quelque chose de pathologique et du coup de chronique, hein, qui fait que ça va se diluer. On ne va plus savoir réellement quelle était la cause de cette insomnie. C'est non identifiable en fin de compte, hein. On n'en a plus la cause de l'insomnie. Et du coup, va se créer une sorte de psychophysiologie, hein, c'est-à-dire que des facteurs physiologiques et psychologiques vont être intriqués. Hein, la personne va rentrer dans un cercle vicieux, ça va s'entretenir entre ce niveau d'éveil qui va être excessif et puis cette anxiété centrée sur le sommeil, et tout cela fait que la personne va créer une sorte d'anxiété du sommeil, une peur du sommeil, et ça va devenir chronique.
D'accord. Alors, on en a déjà mentionné certains, mais quelles peuvent être les causes de l'insomnie?
Alors, il y a deux grandes familles de facteurs de cause, déjà intrinsèques, hein, la personne elle-même, et puis extrinsèques. En fin de compte, on pourrait dire qu'il n'y a pas de profil type. Hein. Comme je t'ai dit, Maria, tout le monde peut être touché par l'insomnie. Mmh. Mais on va voir que certains critères sont plus sensibles par rapport aux autres. On va voir, par exemple, chez les personnes âgées, elles vont souffrir un peu plus d'insomnie. Pourquoi ? Parce que le vieillissement du cerveau change le fonctionnement de l'horloge biologique. Le fait d'être une femme, je suis désolée Maria, mais effectivement, nous les femmes, nous sommes beaucoup plus prédisposées à l'insomnie, pas de chance, non ? Alors que les hommes, eux, seront plus sujets à des troubles tels que l'apnée.
Ouais. Comment tu expliques ça ? Il peut y avoir des troubles hormonaux ?
Il peut y avoir, voilà, nous les femmes, on va avoir des troubles hormonaux comme les règles, la grossesse, la ménopause, qui vont avoir une influence sur notre qualité de sommeil. Mm-hmm. Et puis, on dit aussi, par exemple, que c'est une histoire familiale d'insomniaque. Hein, là, génétiquement, ça n'a jamais été prouvé, mais voilà, on est dans des croyances, et ça c'est ton domaine, Maria, de comme mon grand-père, ma grand-mère, ma mère, nanani, nanana, et toute la famille et tous mes ancêtres sont insomniaques, donc moi aussi, je vais être insomniaque. Et puis, on va avoir aussi comme facteur des gens qui n'expriment pas leurs émotions durant la journée et qui auront tendance à traîner leurs problèmes au lit.
À
ne pas se débarrasser de ses pensées, et j'aurais dû faire ci, et pourquoi je n'ai pas fait ci. Elles vont ruminer.
Rejouer le film toute la nuit.
Tout à fait.
Alors justement, l'anxiété, des angoisses, tendance à stresser, ça joue aussi, j'imagine.
Oui, les personnes anxieuses.
Un terrain anxieux à la base.
Voilà, un terrain anxieux, un terrain hyper vigilant aussi. Hein, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à décompresser à l'heure du coucher. Donc, elles vont être dans ce qu'on appelle cette incapacité à arrêter la machine, comme disent certains patients. Hein. Et du coup, comme elles n'arrivent pas à arrêter la machine, elles relancent le système d'éveil. Donc, elles vont penser à la liste des courses, elles vont penser à la réunion, elles vont sans cesse être dans ces angoisses, dans cette rumination aussi. Et puis, cette peur, hein, on retrouve souvent la peur de dormir, la peur de mourir, la peur d'être agressée durant ce sommeil, qui fait que la personne reste dans cette hypervigilance. Mmh. Donc à la fois physique et à la fois mentale. Hein. Et on sait aujourd'hui que l'anxiété et l'angoisse sont éveillantes. On ne peut pas s'endormir si on est dans un système d'éveil.
Bien sûr, on l'a vu suffisamment dans d'autres conférences, quand le corps est en état de stress, quand il y a l'amygdale, tout ça qui active,
tout à fait.
Qui s'active, qui dit attention, danger, forcément, c'est pas le moment d'aller faire une sieste.
Non. Ben non. Et non. Et notre corps, c'est une peur archaïque, parce que
oui.
Notre corps ne peut pas relâcher, ouais. On ne peut pas se laisser aller dans le sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose où on est vulnérable, hein.
Tout à fait.
Hein? Donc on peut, si on a cette angoisse, si on a cette hypervigilance, on ne peut pas justement s'abandonner dans le sommeil. Donc on retient.
Mmh. Et des tendances à l'hyperactivité ?
Oui, ce qu'on appelle l'hyperactivité, c'est à la fois donc mentale et physiologique. Hein? On a à la fois donc cette hypervigilance au niveau du mental et cette tension au niveau musculaire, au niveau du corps, hein, qui fait que si le corps n'est pas relâché, le mental ne peut pas se relâcher, et si le mental n'est pas relâché, enfin, il y a un cercle comme ça vicieux qui s'entretient, Hein, et la personne ne peut pas accéder à un état de détente, de relâchement et d'apaisement. Et ne peut pas rentrer dans le sommeil, effectivement.
Donc, pour ces personnes-là, le fait d'aller faire un footing le soir pour se fatiguer avant de se coucher, c'est pas forcément une bonne idée, par exemple.
Alors, le footing, je le veux bien, mais 2 heures avant de se coucher.
Plutôt dans la journée.
Plutôt dans la journée. Pourquoi ? Parce que faire du sport avant d'aller se coucher va remonter la température du corps. Et on sait très bien que pour s'endormir, il nous faut une température basse. Hein, il faut que la température du corps soit basse. Généralement, quand on va, lorsque l'on se couche, nombreuses personnes se prennent une douche pour s'endormir. C'est une douche tiède qu'il faut prendre. C'est pas une douche chaude. Sinon, ça va relancer l'éveil. Donc, le sport, c'est pareil. On ne fait pas du sport avant de s'endormir.
Oui. Alors, je me rends compte qu'il y a énormément d'idées reçues par rapport au sommeil, Catherine, mais je ne peux pas m'empêcher de poser la question. Le café, alors?
Alors, le café, on n'a pas la vérité, effectivement. Alors, certaines personnes vont me dire, mais moi, j'ai besoin de mon café avant de m'endormir. Et le café ne me fait rien, donc je peux en prendre même le soir. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire, mais moi, le café, après 3 heures de l'après-midi, je fais nuit blanche. Effectivement, nous sommes différents face aux substances. Le thé, le café, l'alcool, le tabac, chacun est différent. Hein. Nous sommes des personnes singulières. C'est comme ça. Il n'empêche, on sait qu'il y a une influence quand même sur l'insomnie. Et il y a une l'insomnie aussi peut figurer parmi certaines substances, comme les médicaments. Hein, si vous prenez la liste des effets secondaires, l'insomnie figure sur certains médicaments. Oui. Et on sait que les somnifères pris à trop grande quantité et trop longtemps peuvent entraîner de l'insomnie. Hein, c'est ce qu'on appelle le rebond d'insomnie. Peut-être certains d'entre vous ont déjà testé. Hein, c'est-à-dire que dès que vous voulez cesser, hein, dès que vous arrêtez de prendre vos somnifères, eh bien l'insomnie revient. Ce qui vous amène du coup à reprendre les somnifères et c'est un cercle vicieux. L'insomnie, c'est vraiment un cercle vicieux.
Certaines maladies aussi peuvent jouer?
Alors, certaines maladies, ouais, bah oui, effectivement, les maladies chroniques, l'asthme par exemple, l'insuffisance cardiaque, le reflux gastro-œsophagien, l'arthrite, les douleurs chroniques. En fin de compte, je dirais que là, le plus important, c'est de traiter la maladie, de traiter la douleur qui vont nous amener à soulager la personne et ainsi diminuer l'insomnie. Hein, là, c'est vraiment traiter la maladie et la douleur.
D'accord. Donc là, bien sûr, ça demande l'intervention d'un spécialiste de la maladie qui est en cause.
Oui.
Mais sans aller dans ce cas extrême, si je peux dire, comment est-ce que tu peux nous montrer comment on peut utiliser l'EFT pour ce problème général d'endormissement?
Effectivement, si vous faites partie de ces catégories que nous venons d'énoncer, je vais vous proposer de prendre un temps, un instant, hein, et nous allons tout de suite mettre en pratique avec une ronde, de façon très générale pour commencer,
hein,
sachant qu'il y en aura d'autres encore durant cette intervention. Mais si tu veux bien, Maria, on va s'installer tranquillement, et puis vous aussi, ceux qui nous écoutent, prenez un temps si vous le souhaitez. Et puis, de façon générale, hein, on ne va pas rentrer dans quelque chose de spécifique dans cette première ronde, mais de façon générale, on va commencer. Alors, je t'invite, Maria, effectivement, à stimuler au niveau du point karaté.
Très bien. Et tout le monde nous suit, donc. Moi, je vais répéter les phrases avec toi.
Voilà.
Faites-le chez vous. Et je rappelle que la séance est enregistrée, donc si jamais vous devez nous quitter pour aller vous coucher, vous pourrez rattraper la suite demain.
Tout à fait.
Ok, je te suis, Catherine.
Allez, même si j'ai peur de ne pas dormir cette nuit.
Même si j'ai peur de ne pas dormir cette nuit.
Je m'accepte et je choisis de me détendre.
Je m'accepte et je choisis de me détendre.
Même si je vais me réveiller pendant la nuit.
Même si je vais me réveiller pendant la nuit.
Puisque c'est ce qui va arriver.
Puisque c'est ce qui va arriver.
Je m'accepte.
Je m'accepte.
Et je choisis de rester détendue.
Et je choisis de rester détendue.
Même si je vais encore rester éveillée toute la nuit.
Même si je vais encore rester éveillée toute la nuit.
J'accepte que mon corps mérite du repos.
J'accepte que mon corps mérite du repos.
Le point de la tête. Je ne dormirai pas cette nuit.
Je ne dormirai pas cette nuit.
Sourcils. Je ne dors jamais tout de suite.
Je ne m'endors jamais tout de suite.
Coin de l'œil. Je ne mérite pas de dormir.
Je ne mérite pas de dormir.
Sous l'œil. Je suis encore éveillée.
Je suis encore éveillée.
Sous le nez, le sommeil me fuit.
Le sommeil me fuit.
Sous le menton, je vais encore me réveiller.
Je vais encore me réveiller.
Clavicule, j'ai peur de ne pas trouver le sommeil.
J'ai peur de ne pas trouver le sommeil.
Les aisselles, sous les aisselles, je vais encore être fatiguée demain.
Oh, je vais encore être fatiguée demain.
Sous les seins, c'est toujours la même chose.
Ah, oh, c'est toujours la même chose.
Coin du pouce, j'ai peur de ne pas trouver le sommeil.
J'ai peur de ne pas trouver le sommeil.
Index, je ne m'endors jamais tout de suite.
Je ne m'endors jamais tout de suite.
Majeur, je n'arrive pas à me détendre.
Je n'arrive pas à me détendre.
Le petit, je n'arrive pas à m'endormir.
Je n'arrive pas à m'endormir.
Point karaté, je vais encore rester éveillée toute la nuit.
Oh, je vais encore rester éveillée toute la nuit.
Point de gamme, j'ai peur de ne pas trouver le sommeil.
J'ai peur de ne pas trouver le sommeil.
Voilà, on respire tranquillement. Vous buvez, n'oubliez pas de boire. Et puis ressentez ce qui se passe. À quelques instants dans votre corps, juste venir en contact avec ces sensations de détente qui commencent à s'installer. Familiarisez-vous avec toutes ces sensations agréables de relâchement. Voilà, l'objectif étant de désactiver l'axe du système nerveux sympathique pour actionner le parasympathique qui va nous permettre justement de détendre le corps et de relâcher le mental.
Ben, je peux partager que pour moi, qui ne semble pas, je ne me considère pas du tout concernée par les problèmes de sommeil, et là, je n'ai pas l'intention de dormir, mais c'est vrai que rien que ça, ça détend. Je sens la détente qui s'installe. J'ai reprimé tant bien que mal un bâillement ou deux. Et ça fait du bien. Donc, ne vous attendez pas non plus à tomber de sommeil dans l'instant.
Non, effectivement. Effectivement. Donc, si besoin, vous pouvez refaire plusieurs fois cette ronde. Vous verrez, comme Maria le dit, les bâillements vont commencer à apparaître, des picotement au niveau de vos yeux, vraiment cette sensation de détente qui va s'installer. Donc suivez bien votre rythme, ne vous mettez pas, ne relancez pas l'éveil ensuite. Et je vous donnerai même un petit conseil, faites une ronde avec toutes ces sensations positives que vous ressentez. Ça va relancer justement l'effet de détente et ça va renforcer votre conditionnement.
D'accord. Et ça, on n'aura peut-être pas le temps de le développer ce soir, parce que je sais que tu as encore beaucoup de choses à nous dire. Mais dans ton bonus, qui est offert dans le pack du Congrès virtuel EFT 2016, tu offres un protocole complet où on fait d'abord le nettoyage du négatif, l'installation du positif, avec un audio.
Oui, avec un audio, donc
Tu pourras vous suivre partout.
Tout à fait, effectivement, c'est ça le but. Et dans le protocole complet, comme tu dis Maria, vraiment de voilà bien nettoyer au niveau du négatif et des angoisses, tout ce qui vous empêche de dormir, et puis de renforcer le positif.
D'accord. Bon, super. Alors pour ceux qui sont encore là ou qui reprennent leur examen demain. Quand parle-t-on d'insomnie chronique?
Alors, les spécialistes, parce qu'il y en a,
Mais oui, ah oui, il y a énormément d'études sur le sommeil. Tout à fait. C'est pas tout encore,
c'est ce qu'on a dit. C'est pas tout. Les spécialistes définissent l'insomnie chronique lorsque le trouble se présente au moins 3 fois par semaine. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que quand vous avez de l'insomnie 3 fois par semaine durant un mois minimum, vous êtes dans ce qu'on appelle de l'insomnie. Et de l'insomnie chronique si ça perdure. Hein? Donc les symptômes, on les a vus déjà parce que ce sont les mêmes que l'insomnie occasionnelle. Plus de 30 minutes pour vous endormir, des réveils nocturnes et puis des réveils prématurés. Donc là, oui, mais le plus important, c'est 3 insomnies durant la semaine. Hein? Et l'idée est que la personne souffre tellement de ne pas dormir qu'elle finit par avoir peur de se coucher et de ne pas réussir à s'endormir. C'est ça qui va définir ensuite l'insomnie chronique. Hein. Mm-hmm. C'est une insomnie qui se nourrit elle-même. Et vient ensuite le conditionnement négatif, hein, qui va créer des angoisses, des angoisses de performance, de ne pas arriver à trouver un sommeil de qualité. On a des « il faut que je dorme, il faut que je dorme 8 heures, il faut que j'arrive à dormir, demain j'ai une grosse journée ». Et plus on va être dans ces processus de pensée, plus le sommeil va
nous fuir. Oui, ça, j'ai testé pour vous, effectivement, le fait de se dire « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », ça marche pas.
Ça marche pas.
À moins peut-être d'y ajouter effectivement quelques petits tapotements EFT. Là, ça peut commencer à être efficace. Et ça, on le verra ensemble tout à l'heure.
Tout à fait. Mais imaginez toutes les nuits et plusieurs fois par nuit, quelqu'un ou quelque chose vous empêche de dormir et vient vous réveiller pendant votre sommeil. Hein? C'est ça, c'est comme ça que ce conditionnement va s'installer. C'est-à-dire que lorsque la situation qui provoque cet éveil est anxiogène et se reproduit d'une manière répétitive, on aboutit à un certain temps à un endormissement difficile et à un éveil qui se produit sans raison apparente. Hein? Donc en réalité, il est sous-tendu par des mécanismes subtils de conditionnement. Quand vous êtes confronté à une situation répétitive, votre cerveau sait que vous allez être réveillé. Et du coup, il anticipe cet éveil. Hein? Ainsi, quand vous vous couchez, le signal de sommeil est remplacé par un signal d'éveil. Et en fin de compte, l'insomnie est plus un problème d'éveil que de sommeil. Effectivement, dans le conditionnement, on voit bien dans certaines situations, hein, les mères qui sont obligées de se lever toutes les nuits pour leur enfant, soit parce qu'on a un parent ou quelqu'un qui est malade, voilà, quelque chose de répétitif, crée ces mécanismes-là de conditionnement. Donc effectivement, les personnes qui souffrent d'insomnie chronique vont aussi développer ce sentiment d'impuissance. Quoi qu'elles fassent, de toute façon, elles ne pourront jamais retrouver un sommeil de qualité. Et les patients me disent, hein, je ne dormirai plus comme avant, c'est plus possible. Rien ne fait, quoi que je fasse, de toute façon, rien ne semble faciliter mon sommeil. Donc effectivement, c'est l'insomnie chronique qui diminue en plus notre résistance au stress, elle favorise l'anxiété, et on voit bien que c'est un cercle, hein, je le dis, je le répète, mais on est dans quelque chose de répétitif, de cercle vicieux, de conditionnement à ne plus pouvoir s'endormir, je dors mal, je ne dors plus, je sais que mes nuits seront difficiles, donc mon angoisse va se créer, et puis devant cette peur de dormir, ce stress lié à l'insomnie, eh bien le sujet rentre dans un cercle vicieux où il ne pourra plus y échapper de toute façon.
Oui, et a fortiori, si on est sur un terrain anxieux à la base,
en plus,
où le manque de sommeil va venir renforcer l'angoisse et du coup encore plus de petits vélos dans la tête. Oh, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est vraiment un cercle vicieux.
Oui.
Et c'est là, j'imagine, que l'EFT peut vraiment devenir un allié précieux pour venir rompre ce cercle vicieux.
Alors, l'EFT, je le trouve très efficace, effectivement, parce qu'à la fois, il va traiter donc les angoisses, hein, et il va modifier ce conditionnement. Mmh. Hein, avec du recadrage et amener quelque chose de possible.
Mmh. Donc on peut à la fois couper court à cette peur d'aller se coucher, en fait, parce que une fois de plus, ça ne va pas marcher.
Tout à fait.
Et aussi diminuer le stress et l'angoisse progressivement pendant la journée.
Tout à fait.
Ok. Tu peux nous montrer comment ça se passe?
Eh bien, on va le pratiquer ensemble.
On refait un tapping, ouais.
on refait un tapping pour ceux qui le souhaitent. On va effectivement orienter ce tapping sur des angoisses liées alors effectivement durant la journée, mais liées plus à cette difficulté d'endormissement. Mm-hmm. Alors, on va vous installer tranquillement. On va
donc là, pour les personnes concernées, on peut carrément demander à évaluer cette angoisse.
Alors,
à combien vous vous sentez stressé à l'idée d'aller vous coucher ce soir?
Voilà, tout à fait.
Donc entre 1 et 10, mettez juste un chiffre sur cette angoisse-là.
Effectivement, pensez à cette anticipation du sommeil. Hein, à quel degré l'anticipation, effectivement. Et quand je travaille sur les angoisses comme ça, cette incapacité à retrouver le sommeil, on travaille sur l'image future.
Mmh, et donc, on va se projeter dans le film du prochain endormissement de l'année à venir.
J'évalue l'intensité effectivement de cette angoisse, de ce stress de pas trouver le sommeil, à combien il est situé. Mmh. Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc là, prenez un temps, visualisez-vous à combien cette angoisse sur l'échelle, à combien vous la situez, combien vous êtes, et puis on va y aller.
Allez.
Allez, point karaté. Même si j'angoisse de ne pas m'endormir cette nuit.
Même si j'angoisse de ne pas m'endormir cette nuit.
Je m'accepte et je choisis de me détendre.
Je m'accepte et je choisis de me détendre.
Même si mes angoisses vont m'empêcher de dormir cette nuit.
Même si mes angoisses vont m'empêcher de dormir cette nuit.
Et cela m'agace.
Et cela m'agace.
Puisque c'est ce qui va arriver.
Puisque c'est ce qui va arriver. C'est ce qui arrive toutes les nuits.
Eh oui. Je m'accepte et je décide de voir les choses différemment.
Je m'accepte et je décide de voir les choses autrement.
Même si je vais encore rester éveillée toute la nuit à cause de mes pensées.
Même si je vais encore rester éveillée toute la nuit à cause de mes pensées.
Et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter.
Et je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter.
Je m'accepte et je décide de laisser mon esprit se détendre pour une fois.
Je m'accepte et je décide de laisser mon esprit se détendre pour une fois.
Point de la tête. Et voilà, c'est encore fichu pour cette nuit.
Et voilà, c'est encore fichu pour cette nuit.
Point des sourcils. Toutes ces angoisses, toutes ces pensées dans ma tête.
Toutes ces angoisses, toutes ces pensées dans ma tête.
Coin de l'œil. Toutes mes inquiétudes qui me submergent et m'empêchent de dormir.
Toutes les inquiétudes qui me submergent et qui m'empêchent de m'endormir.
Sous l'œil. Je suis encore réveillée à cause de mes angoisses.
Je suis encore réveillée à cause de mes angoisses.
Sous le nez. Je vais pas réussir à m'endormir à cause de mes pensées.
Je vais pas réussir à m'endormir à cause de mes pensées.
Sous le manteau, je m'inquiète beaucoup trop.
Je m'inquiète beaucoup trop.
Point clavicule, je vais vraiment pas réussir à m'endormir.
Non, je vais vraiment pas réussir à m'endormir.
Sous les aisselles, je vais être encore fatiguée et épuisée demain.
Je vais être encore fatiguée et épuisée demain.
Sous les seins, je n'arrive pas à apaiser mon esprit.
Je n'arrive pas à apaiser mon esprit.
Au niveau du pouce, toutes ces inquiétudes dans ma tête.
Toutes ces inquiétudes dans ma tête.
Index, toutes ces ruminations dans ma tête.
Toutes ces ruminations dans ma tête.
Majeur, je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter.
Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter.
Le petit, et voilà, la machine se remet en route.
Et voilà, la machine se remet en route.
Point karaté, je n'arrive pas à apaiser mon esprit.
Je n'arrive pas à apaiser mon esprit.
Point de gamme, et voilà, c'est fichu pour cette nuit.
Et voilà, c'est fichu pour cette nuit.
Voilà, vous respirez bien. On prenait bien le temps de boire. Voilà, vous ressentez quelques instants. Et puis maintenant, peut-être lorsque vous vous projetez dans cette image future de vous, voyez voyez comment c'est, voyez ce qui a changé, voyez si ça a baissé au niveau de l'intensité émotionnelle. Voilà, observez un peu ce qui se passe. Si besoin, refaites la ronde. Et puis, si besoin, vous pouvez même y remettre du recadrage. Le plus important, c'est de nettoyer. Moi, j'insiste bien, c'est vraiment nettoyer le négatif avant.
Oui.
Avant de remettre du recadrage.
Oui. N'ayez pas peur de dire ces pensées qui semblent peut-être négatives. C'est ça qui va permettre de les nettoyer, effectivement.
Oui.
Et vous pourrez toujours passer à du positif plus tard.
Voilà, ouais. Ouais.
Donc, si vous avez encore le petit vélo dans la tête, encore des angoisses, tout ça, n'hésitez pas à continuer à stimuler les points. Et Catherine, pendant ce temps-là, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ta pratique? Est-ce que tu as un cas concret à nous présenter?
Alors, c'est Maria, de nombreuses personnes me consultent pour des troubles d'insomnie. Et j'ai envie d'évoquer avec vous la situation d'une patiente dont les symptômes sont récurrents chez les personnes souffrant d'insomnie. Quand je dis récurrent, effectivement, on est dans cette hyper activité mentale et physique, parce que cette personne est dans une hypertension musculaire et elle ne s'en rend même pas compte. Donc voilà, quelque chose qui est que je rencontre souvent au cabinet et effectivement cette patiente m'a interpellée plus particulièrement. Alors nous l'appellerons Héloïse. Héloïse a 33 ans et elle enseigne l'anglais au collège. Elle est adressée par le psychiatre donc du centre du Vinatier et elle a passé deux nuits. Il faut savoir qu'on passe généralement deux nuits pour évaluer son état de sommeil, pour voir si vraiment il y a des troubles de sommeil ou pas. Et il en est le résultat a montré qu'il n'y avait aucun trouble physiologique, mais c'était simplement la rumination et cette incapacité à se détendre et à lâcher, en fin de compte. Il n'y a pas de problème organique en soi.
D'accord. Donc ça permet d'écarter cette hypothèse.
Tout à fait. C'est pour ça qu'effectivement le psychiatre me l'a adressé. Et donc elle vient me voir en me disant qu'elle a des difficultés d'endormissement durant la nuit. Donc elle a des réveils nocturnes et cela dure depuis 10 ans quand même. Sa première insomnie, elle me dit qu'elle remonte lorsqu'elle était à la fac. Et suite à une rupture amoureuse, voilà, c'est à partir de ce moment-là où elle manifeste ses premières insomnies et elle dit, mais en même temps, d'une année sur l'autre, ça va, ça vient, il y a des années où je dors mieux, il y a des années où effectivement je dors moins bien. Et en 2015, elle fait une grosse crise d'insomnie sans événement déclencheur. Elle dit être envahie par le stress de la journée et elle a des classes difficiles et du coup le stress de la journée continue à l'envahir la nuit. Donc, elle a vraiment une incapacité comme ça à faire, à cliver, hein,
à déconnecter.
Ouais. Son insomnie, ça se précise, plus je la questionne, plus elle précise les causes de son insomnie. Donc, son insomnie se produit la nuit du dimanche au lundi, car le lundi, c'est sa plus grosse journée. Donc, elle a besoin d'être en forme. Elle me dit, il faut que je sois en forme, il faut que je passe une bonne nuit, il faut que je dorme. Et bien sûr, vous l'avez compris.
Et elle a fait la même expérience que moi. Il ne suffit pas de se fouetter
voilà.
Pour dormir.
C'est ça. Et ça ne marche pas. Effectivement, ça ne marche pas. Et donc, nous avons travaillé sur déjà ce que représente cette journée de travail. Je ne vais pas rentrer tout dans le protocole et dans toutes les séances que nous avons fait, mais on a travaillé sur ce que représentait cette journée de travail, cette performance qu'elle pouvait avoir et du coup cette angoisse de performance qui pouvait se déceler chez elle. Et juste pour vous donner vraiment un petit aperçu d'une de nos séances, donc toujours elle fait des réveils nocturnes et donc je la questionne ce réveil nocturne du dimanche au lundi. Donc, je la renvoie dans ce moment-là et je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Et elle me dit, j'ai une boule au ventre et j'ai la tête qui bouillonne. Au niveau émotionnel, elle passe de la lassitude à l'énervement, à l'agacement, à la frustration de ne pas arriver à s'endormir. Et elle dit avoir peur du rien, c'est-à-dire que je n'arrête pas de penser. C'est-à-dire que si j'arrête de penser, il n'y a rien et c'est pas possible pour moi, je ne peux pas. Donc, elle me dit, elle a cette peur du rien, et le sud, quand on l'évalue, il est à 9 quand même. Et ses croyances, je ne pourrai plus faire une journée de travail, mon corps m'abandonne, c'est parti pour une nuit sans sommeil, c'est encore mort pour cette nuit, je suis pas comme les autres, voilà. Et elle est dans cette croyance, dans ce conditionnement qui fait qu'elle entretient ses angoisses. Donc nous faisons plusieurs rondes et lorsque nous revenons sur le souvenir, elle dit être complètement apaisée, hein, ressentir de l'apaisement. Elle sent son corps qui est fatigué, qui pourrait même s'endormir. Elle me dit mais en fin de compte, je sens que là je pourrais me laisser aller dans le sommeil. Mon corps est lourd, mes paupières sont lourdes et quand on évalue le sud, il tombe à 3. À ce niveau-là, effectivement, on continue sur du positif, on continue sur la méthode de choix qui va permettre de renforcer ses pensées, ses croyances positives et renforcer son conditionnement positif. Hein. Je l'ai revue la séance suivante, elle dit faire des bonnes nuits, elle se réveille encore, hein, parce qu'on verra que l'insomnie, ça ne se règle pas en une séance, hein, de toute façon, elle se réveille, mais en tout cas, l'endormissement est beaucoup plus rapide qu'avant. Et lorsqu'elle va se coucher, elle dit « Cool, cette nuit, je vais bien dormir. »
Ah, donc ouais, la croyance a été transformée.
Et oui. Ouais. Et elle prend, effectivement, elle a pris conscience que le stress de la journée impacte ses nuits et son conditionnement. Mmh. Donc, durant la journée, elle se prend des temps de pause pour se détendre, pour évacuer le stress et ne pas l'emmener dans son lit.
Oui, oui, tout à fait. Donc, tu dis que pour cette personne-là, ça fait 10 ans qu'elle avait des problèmes d'insomnie.
Oui, 10 ans.
Bon, qui allait, qui venait, ouais. Qui n'était peut-être pas extrêmement handicapant pour elle, mais c'est quand même un peu dommage d'en arriver là, non?
Alors, effectivement, moi, je trouve que c'est dommage de se mettre dans des conditions d'extrême, parce que vous avez vu, il y a des conséquences quand même qui ne sont pas anodines. Hein.
Oui.
Ça altère la santé, ça altère nos capacités cognitives. Donc, effectivement, je trouve que n'attendez pas. Si vous êtes dans ce cas-là, n'attendez pas. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. C'est très important parce que c'est source de souffrance. Et le risque, c'est qu'effectivement, donc il y a tous des problèmes psychiques, hein, irritabilité. Et au fur et à mesure, on s'éloigne des personnes. Et puis le risque, c'est de tomber dans la dépression quand même, hein, quand on est dans la somnolence chronique.
Oui, oui. Et puis quand on parle de somnolence, tout ça, moi je pense tout de suite une somnolence au volant. Si vous êtes amené à conduire, ça peut aussi provoquer des accidents.
Hein, tout à fait.
Dans votre travail, enfin, voilà. C'est peut-être un risque à éliminer quand vous le voyez venir. Donc, quand faut-il consulter? Tu parlais des 30 jours qui sont la définition de l'insomnie chronique, à moins qu'il y ait un événement qui explique vraiment votre insomnie.
Alors, effectivement, moi je conseille, si l'événement traumatisant n'est plus d'actualité, mais que vous continuez à être dans l'insomnie, allez consulter.
Mmh. Ouais. Demandez de l'aide. Oui,
tout à fait.
D'accord. Et avec Héloïse, pour en arriver là, pour avoir un ordre d'idée, il s'agit de une séance, 5 séances, 10 séances?
Non. Là, nous sommes, c'est une patiente que je vois depuis septembre. Donc, nous sommes, oui, à bien 10 séances.
Oui, d'accord. Ouais, donc, quelques mois.
Quelques mois, oui.
Bah, 6 mois, mais pas forcément 1 an.
Non, bien sûr. Non,
parce que là, il y a déjà des résultats, mais après, maintenant, vous travaillez plus sur le stress de la journée, j'imagine.
On travaille effectivement sur le stress de la journée. On continue à renforcer le positif. Hein. Là, on a nettoyé effectivement tout ce qui pouvait engendrer de l'angoisse et ce regard sur le sommeil. Donc là, on est vraiment on continue à renforcer le positif, le conditionnement et à travailler sur sa gestion du stress.
Mmh. D'accord. Alors, je sais que tu as préparé une liste d'outils et d'astuces pour un sommeil de qualité, Catherine. Est-ce qu'on peut passer rapidement à cette liste?
Alors,
de la bonne hygiène de vie à prendre.
Oui, c'est très important. Il est très important, hein, de mettre une régularité dans vos rythmes de sommeil. Mmh. C'est-à-dire vous endormir toujours à la même heure, vous réveiller toujours à la même heure.
Hein. Ça va aider cette horloge biologique très délicate qui règle les cycles de sommeil.
Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, physiologiquement, nous avons énormément d'hormones qui sécrètent l'endormissement. C'est-à-dire la mélatonine, elle est sécrétée 2 heures avant notre sommeil. C'est-à-dire que si nous avons l'habitude de nous coucher à 23h, à 9h, à 21h, nous avons déjà les premiers signes d'endormissement qui apparaissent. Des picotements, du bâillement, voilà, quelque chose de la concentration qui relâche. Donc, et soyez attentive à ces signes-là. Si vous ne les écoutez pas, si vous résistez à ces signes-là, il va falloir attendre 2 heures plus tard pour retrouver les mêmes signes d'endormissement. C'est-à-dire que si vous allez vous endormir alors que ces signes viennent de passer, vous allez tourner dans votre lit, et c'est là où on crée l'insomnie aussi initiale, vous allez tourner pour retrouver le sommeil. Mais vous ne trouverez pas le sommeil, parce que ces manifestations du sommeil sont passées, et il faut attendre 2 heures pour qu'elles reviennent. Hein, c'est comme si vous étiez sur le quai, et vous attendez 2 heures pour que le train repasse. Donc, n'allez pas vous coucher si vous luttez contre le sommeil. Si vous luttez contre le sommeil, attendez 2 heures pour que, à nouveau, les signes reviennent. Quand vous êtes donc dans de l'insomnie nocturne, ne restez pas dans votre lit, mais toujours de façon d'une lumière tamisée. Hein. Ne mettez pas les LED, ne vous mettez pas en éveil. Allez sur un canapé, allez sur un fauteuil, allez dans un autre lit. Prenez une revue, pas un livre qui vous tient en éveil, hein, mais prenez une revue, comme ça va aider à amener le sommeil. Évitez les tablettes, les ordinateurs, le téléphone, parce que la lumière bleue empêche la mélatonine de sécréter. Donc le lit, c'est simplement pour dormir, éventuellement les relations sexuelles. Mais ne restez pas dans votre lit si vous avez de l'insomnie. Vous allez tourner en rond et c'est pas bon. Donc sortez du lit. Puis dès que vous sentez que les signes reviennent, vous revenez. Ensuite, il y a une petite astuce que j'aime beaucoup pour ceux qui sont qui ruminent, qui en ont plein la tête. Avant de vous coucher, prenez une feuille de papier et mettez sur cette feuille tout ce que vous avez dans la tête, tout ce qui vous prend la tête. Hein. Voilà, et vous dites, mettez cette intention, je pose ces idées, je pose mes angoisses, je n'en ai pas besoin pour dormir. Je les reprendrai demain matin. Ils seront là, hein, ils seront au pied du lit, ils vont pas s'échapper. Ou pas. Ça, je n'ai jamais assuré ça. Parce que généralement, ce qui nous empêche de dormir, c'est ça. Je vais oublier, il faut pas que j'oublie que, il faut que je pense à ci, il faut que je pense à ça. Et on est dans ce système d'éveil. Donc, pensez bien à ça. Posez-les, mettez-les au pied de votre lit, vous les récupérez demain matin. Et si vous êtes dans ces habitudes-là, prenez du temps pour vous la journée, pour vous relâcher, utilisez des techniques de relaxation que vous connaissez, hein, par ailleurs.
Oui, voilà. Il y en a plein, la méditation, la sophro, la cardiaque. Toutes peuvent vous détendre et bon à prendre.
Tout à fait. Et il faut savoir qu'il faut 21 jours pour que notre cerveau intègre de nouvelles habitudes. Hein. Mmh. Donc voilà, mettez-vous dans ces nouvelles habitudes et vous verrez qu'au bout de 21 jours...
Accrochez-vous, vous n'allez peut-être pas gagner des heures de sommeil la première nuit, mais
non.
Mais ça vient. D'accord. Ouais. Ok, on va aller répondre aux questions. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Un mot pour conclure, Catherine?
Alors, un mot pour conclure, effectivement, comme tu dis, Maria, comme tu venais de dire, une insomnie, ne tentez pas de la guérir. Ce n'est pas une maladie, hein, mais plutôt apprendre à minimiser les impacts. Hein, c'est comme être anxieux, quoi. Hein. Plus vous allez être dans cette volonté de coûte que coûte de vous détendre, et moins vous allez vous détendre. Donc l'insomnie, c'est pareil. Et portez un relativisé sur l'insomnie. Hein. Donnez-vous des buts réalistes en fin de compte, parce que une insomnie chronique, dites-vous qu'elle a pris du temps pour s'installer. Donc il va falloir aussi beaucoup de temps pour que vous regagniez un sommeil de qualité. Donc voilà, ne soyez pas trop dur avec vous, si ça ne marche pas la première nuit, ce n'est pas grave, mais voilà, n'essayez pas à tout prix de vouloir guérir l'insomnie. Voilà.
Ok, alors on va ouvrir le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en rapport avec le sommeil à notre spécialiste. Merci beaucoup Catherine pour toutes ces pistes partagées.
Merci Maria, merci à vous pour votre écoute et votre attention, et j'ai hâte de découvrir vos questions.
Ça marche. À tout de suite pour les questions.
À tout de suite. À tout de suite.
Voilà, je vois les questions qui arrivent. Et en attendant que Catherine en prenne connaissance et qu'elle prépare ses premières réponses, Noël qui nous a rejoint dans la tour de contrôle.
Et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Donc moi c'est Noël.
Et moi, c'est Maria. Et toi, c'est Maria. Et vous ne nous voyez pas parce que les conférences du Congrès virtuel EFT, ce sont des audioconférences.
Ce sont des audios.
Mais ça va, il y a eu moins de questions sur ça dans le chat ce soir. Alors,
pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on a l'habitude de faire gagner un pack PDF tous les soirs. On en fait gagner deux à chaque conférence. Ces packs PDF, vous avez à côté du chat un pavé où il y a écrit les packs. Et dans ces packs, vous avez les 14 conférences. Vous avez également le cadeau que nous fait le conférencier. Et vous avez également des bons de réduction pour les activités des uns et des autres. Et le PDF, c'est les transcriptions de chacune des conférences sous forme de fichiers PDF. Et Catherine nous fait le plaisir d'offrir un PDF EFT Insomnie plus un MP3 séance EFT guidée pour un bon sommeil. Voilà. Vous pouvez également acquérir, vous le voyez en bas du chat, les conférences à l'unité. On appelle ça des kits. La nouvelle cette année, c'est que jusqu'à présent, on n'offrait pas la possibilité d'acheter les séances à l'unité.
Et ça a été la grande nouveauté en 2015.
En 2015, on a offert ça, ça a vraiment plu. Et du coup, on a décidé de mettre toutes les conférences de tous les congrès, presque tous les congrès, en possibilité d'achat à l'unité. Et c'est en place depuis cet après-midi. Si vous cliquez sur le menu en haut, la boutique, vous verrez de 2012 à 2015. Et là, vous pourrez aller voir les conférences qui ont été données sur les différents congrès d'EFT de 2012 à ce jour. Et je vous laisse sélectionner la conférence qui vous intéresse. Pour en finir avec la boutique, vous avez aussi les conférenciers, pas forcément que de cette année, qui nous offrent des produits différents de la boutique. Voilà pour ça.
Oui.
Est-ce que tu es prête à faire le tirage au sort, Maria?
Absolument.
Absolument, fais gagner des gens.
Oui. Et j'ai déjà tiré une première personne qui a gagné un pack privilège PDF de l'édition 2016, je le précise, puisque effectivement tous les packs également depuis 2012 sont en vente par la boutique. Première gagnante, Linda, et l'adresse mail que je protégerai bien sûr avec ma vie commence par HAC. Et beaucoup plus loin, a31@hotmail.com. Bravo Linda, vous êtes l'heureuse propriétaire d'un pack privilège PDF téléchargeable qu'on va vous faire parvenir par mail dans les jours qui viennent. Parce que pour l'instant, ce pack se remplit petit à petit avec les conférences tous les soirs, mais déjà, il y a les bonus dedans. Bon, presque la totalité des bonus, je crois. Deuxième gagnant ou mais oui, c'est encore une gagnante. C'est Marie-Marthe. Bravo Marie-Marthe. L'adresse mail de Marie-Marthe commence par MA, plus loin E7@videotron.ca. Nous voilà donc un pack privilège PDF qui va partir par téléchargement jusqu'au Canada. A priori, le .ca, c'est le Canada, et on en profite pour saluer nos auditeurs du Québec, qui sont de plus en plus nombreux cette année.
Exactement.
Est-ce qu'on a autre chose à annoncer maintenant?
Alors, on pourrait peut-être faire gagner un petit livre.
Ah oui, on peut faire gagner un petit livre.
Alors,
Catherine fait partie des co-auteurs du petit livre de l'EFT.
Cette année, nous avons eu l'immense plaisir, privilège, d'écrire un livre qui est sorti aux éditions First et qui s'appelle Le Petit Livre de l'EFT. Vous le trouverez partout dans les librairies, chez Amazon, la Fnac, des Citres et autres marchands en ligne. Vous pourrez aussi le trouver chez nous dans la partie ressources. Vous verrez, c'est un petit livre, petit. Il vaut 2,99€ dans le commerce. Il a été écrit par 8 personnes. je vais vous les citer. Dans l'ordre alphabétique, il y a Marie-Annelle qui est sur le congrès cette année, Karine Barco qui aussi a fait une conférence sur le congrès, Anne-Marie Bompard qui n'est pas là, moi-même qui suis là, Caroline Demélus qui donnera une conférence sur ce congrès, Catherine Di Cristofano qui est avec nous ce soir et Yvette Hurguette qui a fait partie des experts en 2013-14 et Jean-Michel Guéret qui donnera sa conférence tout à l'heure. Donc, allez, go le bouton, on vous enverra ce livre pas à la poste parce que pour le coup, ça c'est un petit livre papier.
Ah, il est petit par le format, mais il est rempli de trésors EFT.
Donc on enverra un mail à la personne et puis pour lui demander son adresse
physique. Alors, le petit livre de l'EFT va partir à Annie. Je n'en sais pas plus, donc il y a beaucoup d'amis dans le chat, je pense, mais bon, l'adresse allez. Mail c'est b.a et plus loin hel@gmail.com. Voilà, de toute façon, nous allons vous contacter par mail et vous aurez toutes les infos pour recevoir vos cadeaux. Voilà, et en parlant de cadeaux, on va donner réponse à un maximum de questions.
Deux questions, exactement.
Donc, Catherine, je vais rouvrir ta ligne pour que tu reviennes à l'antenne. Je cherche le bon bouton. Voilà, ta ligne est ouverte, Catherine.
Voilà, très bien. Merci de me ramener à vous.
Est-ce que tu as trouvé une bonne question ?
Alors, je parcours toutes les questions pertinentes et très intéressantes que l'on nous envoie. Et effectivement, il y a des très, très bonnes questions. Donc, je vais prendre le temps. Je ne pourrai peut-être pas répondre à toutes les questions.
Mais étonnant, voilà, j'arrive à répondre à tout.
Ah, mais je pensais que, tu vois, j'avais tapé cet après-midi en me disant que je vais réussir à répondre à toutes les questions. Donc, tu casses mon travail de cet après-midi. Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer si vous me le permettez avec une question de Christine Alla qui nous dit voilà, j'ai des problèmes d'insomnie chronique depuis que je prends des anxiolytiques pour traiter un burn-out sans succès, dois-je arrêter? Alors non, bien sûr, hein, vous n'arrêtez pas comme ça vos anxiolytiques. Effectivement, lorsque il y a un traitement médicamenteux, tout ce qui est anxiolytique, antidépresseur, on ne les arrête pas comme ça. Hein, il y a toujours un suivi médical qui est accompagné. Et dans ces cas-là, effectivement, je ne vais pas travailler sur l'insomnie, je vais en EFT, je vais travailler sur le burn-out. Donc il y a un accompagnement, il y a un travail comme ça qui se fait sur plutôt la cause hein, qui a amené ça que sur l'insomnie. Donc vraiment non, hein, on n'arrête pas. Ça, Noël l'a dit encore hier lors de sa conférence. Effectivement, tout le monde, hein, tous les thérapeutes vous diront de ne pas arrêter votre traitement anxiolytique ou antidépresseur. Alors, j'ai une autre question de Lila qui nous dit, doit-on faire des rondes avec du négatif et quand doit-on faire des rondes avec le positif? Eh bien, selon moi, comment je fonctionne, à partir du moment où le sud, il est à 2-3, hein, à partir de ce moment-là, on peut amener du recadrage et du positif. Voilà, mais pas avant. Je prends et je fais partie.
Le sud, je crois qu'on n'en a pas encore parlé sur ce congrès. Ah, pardon, c'est l'unité de détresse subjective. Et c'est quand on demande à nos clients entre 0 et 10 à combien vous ressentez votre difficulté. C'est
voilà.
C'est ça, Catherine.
Tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai rien à voir avec de l'insomnie. Enfin, si, ça a à voir avec de l'insomnie, pardon. La question de Chantal qui dit « Je m'endors très bien, mais je me réveille toujours vers 3h, 3h30. Avez-vous une idée ?» d'où cela peut provenir. Alors, il est vrai que, quelquefois, la question, c'est à quelle heure je m'endors. Hein ? Quelle heure je m'endors ? Si je m'endors à 21h, effectivement, ça nous fait un cycle à peu près de 21. peu près 6 heures. Hein. Donc, est-ce que Chantal, vous êtes une petite dormeuse ou pas? Moi, j'ai eu un patient comme ça que j'ai suivi où, pareil, il se réveillait vers 3h30 du matin. Et lorsque l'on regarde un peu sur le champ énergétique, hein, vous savez que les organes, l'énergie passe dans les organes toutes les 2 heures sur un cycle de 24 heures. Et effectivement, il n'y avait pas de cause apparente sur ce réveil nocturne. Et quand je prends ma planche des méridiens et de l'énergie, effectivement, l'énergie à ce moment-là, elle passe sur l'organe du foie. Hein, et le foie, en médecine chinoise, c'est la colère. Et avec ce patient, nous avons travaillé sur son émotion, sur la colère qu'il avait du mal à exprimer et qui venait justement se cristalliser au niveau du foie. Et puis, à partir de ce moment-là, on a fait quelques séances et ces réveils nocturnes se sont atténués. Voilà. Après, c'est une idée. Est-ce que c'est la vôtre? Je ne sais pas. Je vous fais partager le cas que j'ai eu avec un patient. Maintenant, effectivement, ce n'est pas une vérité absolue, hein, Chantal. Voilà.
Je te rejoins là-dessus, Catherine. C'est toujours intéressant quand il y a des réveils comme ça à des heures fixes. Toutes les nuits, je me réveille à 5 heures. Voilà. Toutes les nuits, je me réveille à 2 heures. C'est intéressant d'aller voir en médecine chinoise à quel organe ça peut correspondre et puis aller travailler ça avec l'énergie qui correspond à cet organe. Ouais.
Tout à fait. Effectivement, dans ce cas-là, ça avait très très bien marché. Pour ça que j'ai dit, au début, je disais que c'était pas forcément lié à l'insomnie. Hein, on est plus sur quelque chose d'autre. L'insomnie, du coup, n'est que secondaire. Hein. Elle n'est que l'alarme, je dirais, hein, quand il y a une douleur dans le corps. Vous savez que la douleur, c'est le message du corps. Hein. Le corps est en train de nous parler à ce moment-là. Alors, je parcours encore.
Alors, il y a quelques questions par rapport aux examens que tu as cités en unité de sommeil à l'hôpital, je pense. Ambre demande, comment peut-on savoir pour l'apnée du sommeil? Est-ce que tu peux toucher un mot sur ces examens à faire pour écarter vraiment des raisons physiologiques au manque de sommeil?
L'apnée du sommeil, j'en ai pas parlé parce que effectivement, c'était pas le thème de la conférence. L'apnée du sommeil, généralement, le dormeur ne s'en rend pas compte. Hein. L'apnée du sommeil peut s'installer de nombreuses nuits avant que le dormeur se rende compte qu'il fait de l'apnée du sommeil. Pourquoi? Parce que l'apnée du sommeil, au fur et à mesure, va déclencher de la somnolence et de la fatigue durant la journée. Surtout quand la personne dort seule. Quand elle dort accompagnée, la personne qui dort à côté peut se rendre compte que le dormeur fait de l'apnée du sommeil. Pourquoi? Parce que il va faire des bruits pour reprendre sa respiration. L'apnée du sommeil, le cœur s'arrête à un certain moment, hein, il respire plus, donc le cœur va s'arrêter, ce qui fait que pour relancer la machine, il va y avoir un sursaut. Hein, la personne va reprendre de l'air de façon bruyante, ce qui fait que ça va réveiller l'autre. Et généralement, une personne qui dort seule ne va pas se rendre compte qu'elle fait de l'apnée du sommeil, donc elle va avoir des fatigues la journée. Ces apnées du sommeil, elles se font donc à l'hôpital, dans un centre, hein, dans ce qu'on appelle un centre d'hypnologie, et on va tester effectivement donc elle porte un masque, hein, pour voir comment. Quand est-ce que ça se déclenche, combien de fois par heure, en sachant que plus ça va se déclencher souvent, c'est-à-dire plus la personne va être en apnée longtemps, plus ça va solliciter le cœur et du coup déclencher des maladies cardiovasculaires. C'est très dangereux l'apnée du sommeil quand on ne le traite pas, hein, parce que ça fatigue énormément le cœur. Ensuite, si vous sentez que vous faites de l'apnée du sommeil, généralement, ce sont plus les hommes qui sont touchés par l'apnée du sommeil. Après, si vous êtes une femme, ça veut dire que, au niveau morphologique, on a le menton qui est rentré. Hein. Si le menton est rentré, on aura, parce que pourquoi le passage de l'air se fait difficilement, et du coup, on aurait tendance à faire de l'apnée du sommeil. mais généralement ce sont les hommes. Et à partir de ce moment-là, vous allez dans un centre, vous prenez rendez-vous, et puis il y a une machine qui vous est délivrée. Et voilà, ça va relancer la respiration et le souffle et soulager le cœur. Je n'ai pas vu la question, donc je ne sais pas si j'ai suffisamment répondu.
Oui, je pense que ça répond bien.
Après, j'avais vu une question effectivement qui rejoignait l'apnée du sommeil. Il y avait, je ne sais plus parce que du coup je la vois plus, une personne qui disait voilà, je fais de l'insomnie parce que mon mari à côté ronfle ou fait de l'apnée du sommeil. Et oui, ça c'est le problème. C'est le problème d'être. Généralement, l'insomnie est déclenchée par des personnes. Qui ronfle, enfin, quand on dort à côté d'une personne qui ronfle et ou qui fait de l'apnée du sommeil, forcément c'est terrible parce que ça déclenche de l'insomnie pour l'autre qui dort à côté. Oui. Donc dans ces cas-là, c'est pas vous le problème, hein, c'est votre mari ou votre conjoint qui ronfle ou qui fait de l'apnée, hein, donc c'est à lui d'aller traiter. Voilà.
Une question qui rejoint ce sujet-là, c'est Nadia Silla qui demande « Existe-t-il dans votre pack, donc dans ton bonus, une ronde avant d'aller se coucher qui empêche les ronflements ?»
Empêcher les ronflements, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé ce protocole.
J'ai vu des témoignages sur le site de Gary Craig, je crois. J'ai vu des témoignages de personnes qui ont réussi à calmer leur propre ronflement, hein, pas forcément sur le mari, mais des personnes qui ont fait de l'EFT avant d'aller se coucher et les ronflements ont diminué ou disparu.
Bon, oui. Bah, écoute, je n'avais pas cette information. Voilà. Parce que les
ronflements, en tout cas, ce n'est pas dans le bonus.
Non, ce n'est pas dans le bonus. C'est parce que le ronflement, en fin de compte, c'est physiologique. Hein, c'est un affaissement de la trachée. Mais plus les personnes vont être en surpoids, plus effectivement il va y avoir des troubles de sommeil au niveau du ronflement et de l'apnée. Donc généralement, quand il y a des ronflements, on incite les personnes à perdre du poids, ce qui va soulager un peu l'affaissement parce que ça appuie sur la cage thoracique, hein, le poids. Donc, ça réduit le passage de l'air au niveau du palais. Hein, le palais s'affaisse. Quand on est en surpoids, on n'est pas en surpoids qu'au niveau des ventres ou des hanches. Hein, on est en surpoids. Enfin, on a des amas de graisse au niveau des joues, de la bouche. Donc, effectivement, ça tasse, ça affaisse le passage de l'air qui fait que ça siffle et c'est ça, les ronflements. Donc, voilà, c'est pour ça que mais j'irai voir effectivement ce protocole pour voir. Parce que du coup.
Oui, peut-être, je ne sais pas à quoi ça peut être dû, mais peut-être il peut y avoir des ronflements dus aussi à des stress, à des tensions intérieures, et le fait de faire de l'EFT peut-être amener une détente qui permet une meilleure respiration.
Oui. Effectivement, les ronflements sont dus aussi lorsqu'on a fait la fête le soir et qu'on a beaucoup bu.
Oui. Peut-être qu'on pourrait boire et tapoter après.
Alors, boire, tapoter avant, peut-être, avant de boire. Alors,
ça m'est venu une question. André demande que faire en cas d'affreux cauchemars? Il y avait d'autres questions aussi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec l'EFT pour les cauchemars?
Alors, les cauchemars, en fin de compte, les cauchemars, c'est simplement un rêve. C'est un rêve, un cauchemar. Hein, un rêve qui sort à l'état brut. Si on n'avait pas ce senseur qui contrôle un peu nos rêves que nous faisons, tous les soirs, nous ferions des cauchemars. Donc, un cauchemar, comment on peut le traiter? Déjà, peut-être, effectivement, quand on fait des cauchemars, on a cette peur de s'endormir parce que on se dit, hein, qu'on va faire un cauchemar. Donc, peut-être traiter en amont cette peur de s'endormir. Et puis, si on fait des cauchemars, c'est que vous êtes en train de traverser dans votre vie, hein, quelque chose dont il est important, justement, d'aller questionner et, du coup, d'aller travailler avec un thérapeute. Après, je n'ai pas suffisamment d'informations pour développer là-dessus, mais...
Ce dont je peux témoigner, c'est que moi qui ai fait des cauchemars très violents et pendant très longtemps, quand j'ai rencontré l'EFT, on peut réellement s'apaiser en travaillant sur les images du cauchemar. Et du coup, ça enlève du stress et du coup, on dort mieux petit à petit. Donc, c'est aller traiter le cauchemar comme si c'était quelque chose qu'on avait réellement vécu avec la technique de raconter l'histoire ou faire des rondes de EFT sur ce qu'on a vu ou ce qu'on a vécu dans ce cauchemar.
Effectivement, oui. Ouais, je te rejoins, tout à fait. Je n'ai pas de pratique là-dessus parce que je n'ai pas de personne qui vienne avec des cauchemars. C'est pas ça ma pratique. Mais effectivement, oui, ça peut. Tout à fait.
Et ça, c'est relativement simple. Tu peux le faire en auto-traitement dès le matin ou quand le cauchemar se produit, on se réveille, on sursaut la nuit, on était dans un cauchemar. Et on peut faire de l'EFT immédiatement. On peut faire de l'EFT en continu. On fait du tapis en continu sans forcément faire de phrases, mais au moins pour s'apaiser quand ils se produisent.
Oui, tout à fait.
Et après, aller faire un travail un peu plus...
Après, c'est un travail thérapeutique ensuite, oui.
Exactement.
Alors, effectivement, il y a une question de Mimi Valois. Je n'ai pas parlé du travail posté, des travails de nuit. Généralement, le travail de nuit perturbe le sommeil, hein, surtout lorsque ça fait, notamment comme les travails postés, les infirmières, tous ces postes-là, lorsque l'on fait ça pendant 10, 15, 20 ans, du coup, perturbe énormément votre cycle circadien. Hein. Et on sait effectivement il y a énormément de cas à ce sujet. Il y aurait beaucoup plus de risques de cancer lorsque on fait un travail posté ou de nuit que si on faisait un travail diurne. Hein. Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas faire autrement que de travailler la nuit. Et effectivement, le sommeil est perturbé. Dans ce cas, elle rentre vers 5 heures, hein, c'est là où la température du corps commence à augmenter, hein, c'est-à-dire le cortisol commence à revenir dans le corps pour nous permettre d'être dans l'éveil. On leur conseille de faire un bon déjeuner, de prendre une douche, hein, et puis de se coucher pour prendre un sommeil, pas toute la journée non plus, parce que de toute façon, ça risquerait vraiment elle serait complètement déconnectée de la société et des autres. Mais le travail de nuit, oui, c'est un peu compliqué, oui. En tout cas, pour nous, quand on a des patients qui ont du travail posté, c'est compliqué.
J'ai une question de Zaz qui dit « Que faire quand on lutte contre le sommeil jusqu'à l'épuisement et que l'on trouve toutes sortes de choses à faire pendant des heures avant d'aller se coucher ? On tourne en rond et c'est épuisant. »
Oui. Alors effectivement, moi je lui poserai la question « Qu'est-ce qui fait qu'elle repousse le sommeil ?» Qu'est-ce que ça représente pour elle, le sommeil ? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas lâcher ? Plein de questions comme ça à se poser. Qu'est-ce que le sommeil représente pour elle ? Est-ce que c'est quelque chose d'agréable ? Est-ce que c'est une perte de temps ? En sachant que le sommeil, c'est comme la nourriture. Ce n'est pas une perte de temps. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure lors de la conférence, mais si on ne dort plus du tout, hein, si on résiste pendant 11 jours et 11 nuits, on meurt de toute façon. Hein, physiologiquement, on ne pourrait plus tenir. Donc,
c'est pas une option.
Ah non. Le sommeil, s'il est là, c'est qu'il a une bonne raison d'être là. Donc, effectivement, à quoi ça lui renvoie le sommeil ? Qu'est-ce que ça représente pour elle, le sommeil ? Le sommeil, c'est quelque chose de vital. C'est vital. Hein, comme je l'ai dit, effectivement, il nous répare physiquement et psychologiquement. Donc, il a une fonction. Le sommeil a une fonction. Donc qu'est-ce que représente le sommeil pour elle ? Et peut-être dans un comportement de l'agir, du faire, voilà. J'ai pas plus d'informations, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est à elle de me dire ce que ça veut dire et qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas se laisser aller dans le sommeil. Ouais.
Qu'est-ce qui fait qu'elle ne va pas au lit? Qu'est-ce qui peut-être il y a une représentation du lit, de la chambre, du fait d'aller au lit, de l'heure aussi.
Oui. Alors, tout à fait. Tout à l'heure, quand on parle de l'insomnie, ça peut être un élément actuel, hein, peut-être qui déclenche ça, qui déclenche l'insomnie, mais ça peut être quelque chose, un événement traumatisant qui remonte à quelques années, voire à l'enfance. Mmh. Donc, il est important aussi, avant de traiter l'insomnie, mais d'aller voir la cause. Sinon, on ne fait que déplacer le symptôme, et bon, il va se manifester différemment. On ne sera plus dans de l'insomnie, on va être dans un autre symptôme si on ne traite que le symptôme. Donc, voilà.
J'ai une autre question pour toi. Lilou, qui te demande, je ne connais pas l'EFT. Et j'ai des insomnies, dois-je dire des phrases négatives afin de m'endormir?
Oui.
Je ne connais pas l'EFT et j'ai des insomnies, dois-je dire des phrases négatives avant de m'endormir?
Alors, les phrases négatives, on a vu tout à l'heure lors de la ronde, c'est ciblé, hein. L'EFT, enfin, je le répète, plus on est précis, plus c'est efficace. Donc effectivement, quand Lilou dit je n'arrive pas à m'endormir, c'est vraiment de se poser et de voir qu'est-ce qui l'empêche de s'endormir. Est-ce que ce sont des douleurs? Est-ce que ce sont des pensées? Est-ce que c'est la situation du lendemain? Est-ce que, et en fonction de ce qu'elle va repérer, de ce qu'elle va analyser, eh bien, elle va construire ses phrases par rapport à ça et elle va travailler sur ces phrases-là. Effectivement, j'ai peur ou j'angoisse ou j'ai pas envie ou j'en ai marre voilà, en fonction de ce qu'elle va repérer dans cette situation précise, elle va utiliser ces phrases-là.
Très bien. Tu vois d'autres questions ou tu veux qu'on continue à te les poser?
Ouais, je veux bien, ça me va bien comme ça. Vous me donnez la béquille, c'est super.
Non, je sais combien c'est difficile de répondre, parce que quand on répond aux questions, on ne porte plus attention aux questions qui défilent. Et après, on se reconnecte aux questions, on en voit beaucoup, on ne sait pas trop laquelle choisir. Alors, Nanou, je pose une question qui a été un peu abordée, mais peut-être qu'il faut préciser. Quand faut-il faire la séance de EFT? Dans le lit, au moment de s'endormir? Et si on ne s'endort pas, faut-il la refaire jusqu'à ce qu'on trouve le sommeil?
Alors, dans le bonus, donc il y a un MP3, un petit audio qui dure 14 minutes, effectivement, qui va vous permettre simplement d'écouter, hein, et de lâcher le mental, vous vous laissez porter un peu. Donc ce sont des rondes que je fais. Soit, moi, je conseille de le faire dans le lit. Hein, ça évite effectivement de mettre le corps en mouvement, ça évite de relancer l'éveil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous dormez avec quelqu'un et que ça dérange parce que le fait de tapoter, bah, ça crée des vibrations dans le lit, et puis si la personne à côté elle sommeille un peu léger, vous risquez de la réveiller, ça vous amènera ensuite sur des conflits qui sont autres. Je vous conseille peut-être de visualiser les points de, si vous les connaissez, les points les points de EFT et de le faire en visualisant. Si effectivement au bout d'une ronde, deux rondes, trois rondes, l'intensité émotionnelle ne s'est pas atténuée, n'a pas baissé, là je vous conseille de vous lever. Hein, là vous vous levez, vous vous mettez dans un endroit calme, tranquille, et puis vous prenez des revues. Hein, il est important de pas se plonger dans un roman qui vous tient en haleine. Parce que là, du coup, ça retarde vraiment le sommeil, ça vous capte. Mais prenez plutôt des magazines avec des articles courts, voilà, sans intérêt, sans ce qui va relancer le sommeil. Mais bon, moi généralement, voilà, je conseille de faire une, deux rondes dans le lit. Si ça ne vient pas, eh bien vous vous levez. Vous vous levez, vous allez dans une chambre à côté, vous allez vous installer sur le canapé, et puis voilà. Mais n'insistez pas, parce que plus vous allez insister, plus vous allez le vivre sous forme de contrainte, plus ça va relancer l'émotion négative, et du coup, ça ne fait que renforcer et accentuer le conditionnement et le problème.
Mmh. Il y a Liès qui dit « Bonsoir, j'arrive du travail juste maintenant. Est-ce que l'EFT peut aider ma fille de 19 ans qui fait des terreurs nocturnes et épouvantables depuis une douzaine d'années? Elle hurle comme si on en voulait à sa vie et elle est très difficile à calmer. T'as des retours par rapport à ça, des gens qui...
Alors, j'ai suivi une patiente qui faisait des nocturnes, des terreurs nocturnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, parce que ça reste quand même confidentiel. Nous sommes allés traiter la cause. Et la cause, c'était l'annonce d'un diagnostic de santé.
D'accord. Il faut aller voir si, puisque c'est depuis une douzaine d'années, ce qui se serait passé à ce moment-là.
Voilà, tout à fait. C'est d'aller voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Les terreurs nocturnes, ce sont les enfants qui le font. Généralement, jusqu'à 6 ans, ça s'arrête. Hein? Pourquoi les terreurs nocturnes? Parce que c'est le moment où on commence à leur raconter des histoires de loups, des histoires... Ils aiment bien, hein? ça crée leur imaginaire. C'est important de raconter des histoires aux enfants, ça crée leur imaginaire, ça crée leur monde intérieur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des terreurs nocturnes. Parce que ce qu'ils vivent la journée, les histoires, ça se mélange aux rêves et ils font des terreurs nocturnes. Parce que ça s'arrête à un certain moment parce qu'on grandit, parce que voilà, les histoires se transforment. Mais si à 19, 20, 25 ans, il y a des terreurs nocturne, il faut aller traiter qu'est-ce qui a été le déclencheur. Traiter des terreurs nocturnes, ça ne suffit pas.
Hein. Tout seul, c'est parfois très très difficile d'aller justement recontacter ou des histoires terribles qui sont conscientes ou des choses qui sont dans l'inconscient, on ne voit pas trop ce qui a pu se passer il y a une douzaine d'années. Oui. Et puis en faisant le travail de détective, on peut arriver à mettre le doigt sur des choses à traiter.
Oui. Et ensuite, une fois que vous avez fait émerger la cause des terreurs nocturnes, eh bien, on reste sur la cause. Hein. Moi, je ne traite pas pour le coup les terreurs nocturnes. Je traite le déclencheur. Alors, voilà. Alors,
il nous reste encore quelques minutes, Catherine, si tu veux demander une ou deux dernières questions.
MDC qui dit, mais voilà, ma fille faisait d'énormes cauchemars plus petites. C'est l'EFT qui m'a permis de la soulager et d'arrêter ses séries. Même si elle ne racontait rien, juste clavicule point karaté, ça suffisait effectivement. Ouais. Ouais, l'EFT, on a vu, hein, ça marche très très bien pour les enfants et voilà, simplement le fait de stimuler, de tapoter, éventuellement si elle peut faire raconter son cauchemar, comme tu disais Noël tout à l'heure, hein, c'est-à-dire raconter le cauchemar, hein, et travailler dessus, effectivement, ça peut atténuer, tout à fait. Ouais.
Donc, dans le bonus que tu as offert, c'est une séance guidée pour un bon sommeil. C'est quelque chose que tu conseilles de faire avant de s'endormir?
Alors, dans le bonus, vous allez trouver un protocole, enfin trois protocoles. Hein, c'est plutôt orienté pour les thérapeutes praticiens EFT qui souhaitent accompagner des personnes avec les troubles du sommeil et notamment l'insomnie. Donc, il va y avoir trois protocoles en lien avec les trois insomnies dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il va y avoir aussi un audio. Cet audio, effectivement, il est préférable de le faire avant de vous coucher. Hein, ça permet d'atténuer le système nerveux orthosympathique, hein, de se laisser aller, de relâcher le mental, de relâcher le corps, parce qu'en stimulant, forcément, on active le parasympathique. Donc, je le conseille de le faire avant de se coucher ou même voilà, 2 heures avant. Hein, la mélatonine commence à s'installer, 2 heures avant, ça conditionne le corps. On sait qu'il est très important d'avoir des rituels le soir, hein, des rituels de coucher. C'est-à-dire, ces rituels-là permettent d'envoyer les messages au corps en disant, voilà, nous allons nous préparer pour aller nous coucher. Alors il y en a qui vont commencer à se démaquiller, passer à la salle de bain, lavage de dents, préparer les petites affaires pour le lendemain, histoire de se libérer un peu le mental en disant mais qu'est-ce que je vais me mettre demain, il ne faut pas que j'oublie ma pochette, il ne faut pas que j'oublie... Voilà, donc vous vous libérez un peu de tout ça. Et puis ces petits rituels, hein, parce que on a besoin de régularité. Ces petits rituels, une fois que vous, lorsque vous allez les faire tous les soirs, hein, le corps va se mettre dans certains conditionnements et du coup va commencer à relâcher. Et puis ces séances, cette séance, cet audio, vous pouvez le faire donc dans cette période-là, dans ces deux heures qui suivent qui précèdent le coucher, ou effectivement juste avant de vous coucher.
Super. Il y a le chant qui dit merci pour votre réponse, réveil 3-4 heures du matin.
Ah,
et oui. Je m'endors vers 1h30, donc ce serait bien la colère qui serait à travailler.
D'accord, ben oui. C'est voilà. Le problème n'est pas l'insomnie. Le problème n'est pas votre réveil nocturne, mais effectivement, on peut aller voir ce qui se cache derrière ça, la colère. Posez-vous les questions, comment je suis, comment j'exprime et comment je suis avec cette émotion. Qu'est-ce que ça représente, à quoi ça me renvoie. Voilà. Oui, il y a des très, très... Vraiment, merci pour vos questions. Elles sont pertinentes, elles sont précises. Malheureusement, je suis désolée. Il nous faudrait, hein, peut-être que Maria et Noël, vous pourriez penser à élargir le temps de questions.
Oui, bien sûr. On pourrait, mais bien sûr que...
On pourrait passer toute la nuit, hein?
Oui, on pourrait faire un cours entier. Est-ce que tu as un site internet, Catherine?
Alors, mon site internet, c'est www.eft-du6psy.com.
Donc, www.eft-du6psy.
Donc, psy.com.
Voilà, c'est écrit dans le chat. Toi, tu œuvres à Lyon.
Oui.
Et les environs.
Et les environs, oui.
Et également sur Internet, téléphone, Skype.
Oui. Oui, sur Internet, Skype, oui, tout à fait.
Et dans un premier temps, vous pourrez retrouver Catherine dans la page de réécoute qui sera en ligne d'ici
une
bonne demi-heure, une petite heure. Voilà.
Voilà.
Et si votre question n'a pas trouvé réponse ce soir ou si vous en avez d'autres, continuez à les poser là-bas. Et Catherine, j'espère que tu pourras aller répondre aux questions quelquefois d'ici demain soir, le temps de la réécoute.
Oui, je l'appuie même, je vais me mettre sur, en attendant bien sûr la prochaine conférence de Jean-Michel, je vais me mettre sur Facebook et je vais continuer à répondre.
Facebook, voilà, il y a Facebook, rendez-vous sur la page du congrès virtuel de l'EFT, sur Facebook.
Oui.
Voilà, n'hésitez pas à, d'ici, dans l'heure qui arrive là, de retourner dans la page de Catherine. De laisser des commentaires, de laisser des questions. Dites-nous si vous avez apprécié des choses. Voilà, faites-nous des retours. Ça nous permet de prendre la température et comme dit Catherine, peut-être d'améliorer, de faire des conférences plus longues, moins longues, je ne sais pas. N'hésitez pas à communiquer avec nous.
Et si vous avez manqué le début, effectivement, la réécoute sera là aussi dans un petit moment. Et on va libérer la salle pour préparer la conférence de Jean-Michel Guret à 21h.
À 21h.
Où il sera question d'intelligence émotionnelle pour les enfants et comment la favoriser avec l'EFT.
Merci infiniment Catherine. Ça a été un grand plaisir de t'avoir sur ce congrès. C'est la première année que tu y participes et ça ne sera pas la dernière si le cœur t'en dit.
Ah bah écoute, avec plaisir. En tout cas, ça a été une belle aventure. J'ai été ravie de partager ça avec vous. On avait vécu des bons moments et vraiment, c'est avec joie que je vous remercie et avec gratitude de m'avoir invité à ce congrès. Merci à vous.
Avec grand plaisir. Catherine Cristiano, grande praticienne EFT, spécialiste des insomnies.
Et merci pour votre écoute.
de nous avoir écoutés, d'avoir joué le jeu, d'avoir partagé. Et on se retrouve tout à l'heure,
tout à 21h.
21h,
sur l'autre page.
Voilà, voilà. Merci à tous.
Merci à tous.